C'est une joie de méditer et d'ouvrir la parole avec vous ce matin. Nous sommes dans le deuxième exposé, c'est à la page 9 de votre livret. Et nous continuons notre lecture de la lettre de 1 Pierre, nous arrivons au verset 13. Et dans quelques instants, nous lirons le texte donc à partir du verset 13, chapitre 1. Dans les premiers versets, donc les versets 1 à 12, nous avons vu que l'espérance du salut est une réalité à venir. C'est un héritage réservé au ciel, nous dit le verset 4. Il est gardé par la puissance de Dieu, prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut est une réalité à venir. Mais ce n'est pas seulement une réalité à venir, c'est aussi une espérance vivante. Et ce salut qui est vivant, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est vivant et pourquoi nous pouvons dire que cette espérance, elle est vivante? C'est parce qu'elle est dès maintenant agissante. Le salut est vivant parce que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est bien relevé d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui, en 2017, au moment où je suis en train de vous parler. Et ce salut, qui est d'abord en fait réalisé en Christ, il va se déployer progressivement en chacun des croyants. Et donc, le salut a une dimension à venir, mais il y a aussi cette dimension présente. Dans le temps présent, ce salut agit en nous. Alors, cette espérance, si elle est vivante, comment allons-nous la vivre dans le temps présent? Comment rendre cette espérance vivante? Le texte que nous allons lire a une structure assez particulière. Et donc, elle n'est pas directement visible dans nos traductions françaises ou anglaises. Mais en fait, le texte grec est assez particulier. Et je fais juste un petit aparté technique. Lorsque vous aurez la possibilité peut-être de consulter, peut-être d'apprendre le grec et de consulter le grec, vous verrez les versets 1 à 13, donc jusqu'au chapitre 2, verset 10, il y a donc une structure avec 6 verbes qui sont à l'impératif. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est cette structure que nous allons en fait suivre de manière linéaire dans un premier temps. Donc je vais présenter ces 6 impératifs qui sont en fait dans le passage. Dans un deuxième temps, nous allons revenir sur ces 6 impératifs pour parler un petit peu de quelque chose d'assez particulier qui est cher au GBU. Donc vous avez le plan, c'est pour ça que donc, je vais assez vite. Donc vivre l'espérance, vivre la parole, et dans le dernier temps, en fait, je vais m'attarder au dernier impératif, vive l'Église ou vivre l'Église, comme vous l'avez sur votre livret. Alors, première partie, vivre l'espérance. En fait, la vie chrétienne, c'est un peu comme une métamorphose. C'est un peu comme la métamorphose, la mutation d'une chenille. Alors, vous savez qu'avant d'apparaître en magnifique papillon, la chenille va construire sa chrysalide. Et pour les papillons de nuit, ça s'appelle un cocon. À l'intérieur de ce cocon, de cette chrysalide, la chenille se transforme en fait en papillon. Et c'est un vrai bouleversement. Les organes de la chenille se réorganisent pour s'adapter à la vie future. Le cerveau et les yeux grossissent, les antennes s'allongent, les mandibules rétrécissent et la trompe se développe. Et très intéressant, le tube digestif diminue et les organes reproducteurs apparaissent. C'est un vrai bouleversement. La vie chrétienne, c'est un peu comme une métamorphose. Et cette métamorphose, elle ne relève pas d'abord du faire, mais de l'être. Les deux sont importants, le faire et l'être. Mais pour l'apôtre Pierre, ce qui est fondamental, c'est d'abord l'être. C'est la transformation de l'être. Et c'est très intéressant que ce soit l'apôtre Pierre qui dise cela dans sa première lettre. L'apôtre Pierre, c'est le premier, si vous le connaissez, à vouloir faire les choses Et ce Pierre qui est prêt à bondir dès que Jésus demande de faire quelque chose, c'est celui qui va encourager les chrétiens, non pas à faire des choses pour Dieu, par exemple, parler de Jésus, évangéliser. Si vous avez lu donc la première lettre de Pierre, il n'est pas question de parler de Jésus ou d'évangéliser en priorité. Il ne s'agit même pas de prier, de chanter ou de louer. Il n'y a pas en fait ces recommandations dans la lettre. Il y a une fois où Pierre demande, et si vous connaissez aussi la lettre, 1 Pierre chapitre 3, défendre l'espérance, défendre sa foi lorsqu'on nous le demande. Donc Pierre ne demande pas en fait l'activisme ou le laxisme, l'inactivisme. Mais en fait, ce qui est important pour Pierre, et encore une fois j'insiste, c'était vraiment... Je pense que le Seigneur a vraiment changé son cœur et l'Esprit Saint a travaillé en lui. Il a compris que l'importance d'être chrétien, l'important en fait dans le fait d'être chrétien, c'est d'abord de transformer notre pensée, de transformer nos paroles et nos actes en fait. La nouvelle naissance, vous pouvez le noter, c'est comme un nouvel exode. La nouvelle naissance, c'est comme un nouvel exode où Dieu en fait nous transforme de l'intérieur. Et le passage que nous allons lire maintenant, chapitre 1, verset 13, et donc je vais lire dans un premier temps jusqu'au chapitre 2, verset 3, présente ces six impératifs, qui en fait constituent le changement, constituent cet exode. Et je vous invite à lire ensemble, versets 1 à 13, jusqu'au chapitre 2, verset 3. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec crainte, avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous avons affaire à six impératifs, et le premier impératif se trouve dans le verset 13. Comme je vous le disais au tout début, la traduction française ou les traductions donc en langue courante ne sont pas très explicites. Par exemple, le verset 13, j'ai lu dans la seconde 21, vous avez un premier impératif, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Un deuxième impératif, soyez sobre. Et un troisième impératif, mettez toute votre espérance dans la grâce. Et dans le texte grec, le vrai impératif, c'est bien le « mettez toute votre espérance dans la grâce ». Donc, premier impératif ou premier changement, mettez toute votre espérance ou, en fait, espérez dans la grâce. Comment en fait se passe cette métamorphose, ce changement? Le changement fondamental se situe au niveau intellectuel. Et c'est vrai que la foi, elle est d'abord du registre de l'intellect. Lorsque l'apôtre Pierre, lorsque l'apôtre Paul parle du salut, c'est toujours d'abord dans la tête que ça se passe. Et la conversion, on le sait, bien sûr qu'elle va en fait se traduire de manière visible, mais c'est d'abord un changement de pensée. Et pourquoi faut-il changer de pensée? Parce que le péché affecte d'abord la pensée. Le péché ensuite va corrompre notre vision du monde, va corrompre notre vision de Dieu. Et lorsque notre vision de Dieu, du monde et de nous-mêmes est corrompue, on fait n'importe quoi. Et donc nos pensées ont besoin d'abord d'être reconfigurées pour correspondre à la pensée de Dieu, pour en fait se calquer sur la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce premier changement, l'apôtre Pierre nous appelle à donc mettre toute notre espérance, c'est-à-dire en fait prenez position en faveur de Jésus-Christ. Changez en fait de direction si en fait vous n'êtes pas dans la bonne direction, dans la bonne espérance. Et pour pouvoir donc mettre toute votre espérance en Jésus-Christ, vous avez donc les deux premiers verbes qui ont été traduits dans l'impératif dans notre traduction française, mais qui correspondent en grec en deux participes. Il faut tenir notre intelligence en éveil. Tenir notre intelligence en éveil, ça veut dire ne dormez pas. Et si vous avez lu aussi le Nouveau Testament, lorsque Jésus dit aux disciples de ne pas dormir et de rester éveillés, et Jésus le dit en plus aussi dans un contexte de prière, Jésus est en train de dire mais concentrez vos pensées, restez éveillés et sachez qui je suis, qui est Jésus, et continuez en fait donc à tenir ferme en croyant que Jésus est vraiment le Messie envoyé de Dieu, mort mais relevé d'entre les morts, et c'est lui qui donne la vraie espérance. Donc tenir son intelligence en éveil, rester éveillé, continuer à croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et deuxième verbe, soyez sobre. Donc être sobre, c'est quoi? Et il me semble que c'est intéressant aussi dans ce deuxième verbe. Il s'agit de mener une vie marquée par la mesure et la modération. En fait, soyez équilibré dans votre vie, et dans ce que vous faites aussi. Si en fait notre intelligence est en éveil, et si en fait nous menons une vie qui est équilibrée, nous en fait aurons plus de facilité à donc garder, tenir, mettre toute notre espérance et continuer en particulier à mettre notre espérance en Christ. C'est difficile, hein, si nous n'avons pas une vie équilibrée, de viser l'essentiel. Et la sobriété justement dans notre vie, et ça c'est, je pense que c'est important et c'est intéressant pour chacun de nous de regarder peut-être nos agendas, notre vie, notre semaine, et peut-être où est-ce qu'on en est dans notre vie à aujourd'hui, de peut-être enlever certaines choses, d'épurer en fait, pour regarder ce qui est essentiel. Et donc la sobriété, c'est vrai que souvent on l'utilise si vous buvez de l'alcool, à consommer avec modération ou soyez sobre, c'est un peu ça, garder l'équilibre dans ce que vous faites. Donc premier impératif, premier changement, mettre toute notre espérance dans la grâce, verset 13. Nous passons maintenant au deuxième impératif. Donc le deuxième impératif se situe au verset 15. Et donc c'est le verbe « soyez saints dans toute votre conduite ». Ce changement de pensée, donc lorsque vous avez pris position pour Jésus-Christ, pour son espérance, ce changement de pensée débouche sur une métamorphose de la conduite. Et plus précisément, en fait, on va abandonner les mauvais désirs. C'est ce que Paul et c'est ce que Luther appellent aussi le vieil homme. On va abandonner ce vieil homme, cette vie qui est dépourvue de sens. Et c'est intéressant, dans le verbe « se convertir », c'est littéralement en fait faire demi-tour. Avant, en fait, donc, nous étions, en fait, nous nous conformions, c'est ce que dit le verset 14, nous nous conformions au désir de notre chair, au désir, en fait, pécheur. Mais en fait, avec la conversion, on se détourne. Et donc, on abandonne, c'est ce que dit donc le verset le verset 14, on abandonne en fait nos anciens désirs, nos mauvais désirs, pour en fait donc se tourner vers quelque chose de nouveau. Donc on change de direction pour ressembler à celui qui nous a appelés. Et donc dans le contexte de l'Ancien Testament, lorsque Dieu a appelé Israël, il s'agit pour Israël de en fait suivre les commandements de Dieu. Et donc la sortie d'Égypte va en fait déboucher sur le don de la loi au mont Sinaï. Et le don de la loi va être un petit peu le règlement, ou en tout cas les lois, pour que Israël change de conduite et en fait ressemble à celui qui l'a appelé et qui l'a délivré. Donc soyez saints dans toute votre conduite. Troisième impératif, il se situe au verset 17. Verset 17, manifestez ou par votre manière de vivre, ou conduisez-vous avec crainte donc, durant le temps qui vous reste à vivre sur la terre. Cette obéissance se manifeste par l'abandon, donc la crainte, l'obéissance se manifeste par l'abandon du péché, et en fait cette obéissance va devenir explicite. La conversion conduit aux bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres qui, en fait, sont en fait la manifestation d'une œuvre intérieure qui, peut-être au départ, n'est pas visible, mais qui devient de plus en plus visible. Et en fait, donc, accomplir les bonnes œuvres, les œuvres de Dieu, c'est possible parce que Jésus-Christ, et c'est ce que nous dit les versets 18 et 19, « Vous savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais, verset 19, par le sang précieux de Christ. » C'est possible de pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres que Dieu a prévues d'avance, parce que Jésus-Christ a brisé la puissance du péché. Et en brisant en fait cette puissance du péché, on peut vivre selon l'Évangile. Mais cela n'exclut pas les efforts et la persévérance. Alors, je résume là. Ces trois premiers impératifs, ils traitaient, en fait, si vous avez peut-être, vous avez toujours en tête les trois premiers impératifs, ils traitent en particulier du rapport à Dieu, c'est-à-dire dans cette direction, dans cette relation verticale. Donc, garder l'espérance, donc mettre toute votre espérance en Christ, être saint, et donc manifester par notre manière de vivre qu'on craint Dieu. C'est dans la relation à Dieu directement. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, hein? Le décalogue. Ouais. Les quatre premiers commandements sont d'abord, en fait, en direction de Dieu et en relation avec Dieu. Et dans les trois impératifs qui vont suivre, on va traiter maintenant de la relation horizontale, des relations interpersonnelles. Le quatrième impératif, maintenant, donc, se situe au verset 22. Verset 22, vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Et l'impératif grec, aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. C'est vrai, hein? Le second commandement qui est semblable au premier, aime ton Dieu de tout ton cœur, c'est aime ton prochain. La transformation qui est initiée par les trois premiers impératifs, les trois premiers changements, comme par effet de domino, va en fait donc produire une réaction en chaîne. Et donc en fait, lorsque nous sommes transformés de l'intérieur par le Seigneur, par son esprit, par sa parole, en fait ça va se voir à l'extérieur. Vous allez commencer à aimer votre prochain normalement. Si vous n'aimez pas votre prochain, c'est qu'il faut se poser la question de est-ce que vous êtes vraiment transformé de l'intérieur. Et c'est vrai, hein, apprendre à aimer son prochain, ça s'apprend. Ça s'apprend, mais ça commence par, en fait, aimer Dieu. Et souvent, hein, me semble-t-il, dans notre vie, lorsque quelque chose n'est pas réglé avec l'autre, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec Dieu. Et on commence toujours par régler les choses avec Dieu, et après, ça découle, et les relations interpersonnelles ou les difficultés peut-être qu'on peut avoir avec les gens, ça va changer. L'amour, et ça, j'ai remarqué, et vous pouvez le voir avec moi, est quelque chose de très révélateur. Parce que cet amour, si nous revenons au texte, verset 22, Les raisons pour lesquelles, en fait, nous pouvons aimer, c'est parce que, verset 23, pardon, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. C'est vraiment la puissance, en fait, l'efficacité de la parole divine qui, en fait, va agir en nous, nous transforme de l'intérieur et nous permet, en fait, ensuite de vivre comme Dieu le veut de l'extérieur. Et donc aussi d'aimer notre prochain. Cinquième impératif, il se situe donc maintenant au chapitre 2, et donc nous sommes au verset 2, « Désirez le lait pur de la parole ». Dans la continuité de ce qui a été dit, en fait, Pierre nous conduit vers, en fait, à comparer cette parole comme, en fait, le lait pur. Et il s'agit, donc, verset 2, de « désirer le lait pur de la parole ». La parole était auparavant donc un moyen de purification. Maintenant, elle devient en fait le moyen d'édification. Et donc c'est la suite du verset 2. Donc grâce à lui, grâce à cette parole en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez grandir, si du moins vous avez écouté que le Seigneur est bon. Voilà, avec ces cinq premiers impératifs, je vais laisser le sixième impératif pour donc la troisième partie, et je vais d'abord conclure en fait cette première partie, et pour conclure en fait cette première partie de l'exposé, j'évoque cette parabole que Jésus en fait raconte en Matthieu 7. Matthieu 7, c'est la fin de un petit peu ce sermon sur la montagne, et Jésus raconte la parabole du sage et du fou qui construisent leur maison. Le sage et le fou entendent en fait la parole de Jésus. Mais quelle est la différence? Le sage va la mettre en pratique, alors que le fou, lui, il ne va pas la mettre en pratique. Et donc Jésus donne cette image. Le sage, il a bâti sur le roc, et sa maison va tenir. Le fou, il ne va pas bâtir sur le roc, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre en pratique la parole de Jésus, et sa maison va s'écrouler lorsque viennent la pluie, les torrents, le vent. Jésus est en train d'appeler ses auditeurs à mettre en pratique la parole. Et si chacun de nous, si chacun de vous, vous avez la parole de Dieu entre vos mains, et si vous ne mettez pas en pratique cette parole, vous avez beau la lire, beau la méditer, mais si vous ne la mettez pas en pratique, il me semble qu'il n'y aura pas de transformation. C'est Dieu qui est l'auteur de cette parole. C'est Dieu qui va nous donner aussi la capacité à mettre en œuvre cette parole. Mais nous avons besoin nous-mêmes aussi de persévérer et de fournir les efforts qu'il faut pour mettre en œuvre cette parole. Et ça, c'est la transition vers la deuxième partie. Et je serai très bref, en fait, pour cette deuxième partie. C'est un point que nous connaissons bien. C'est pour ça que je vais assez vite. Et vous constatez que chaque impératif, chaque changement est toujours en lien avec la parole écrite ou la parole vivante. Je reprends les impératifs. Premier impératif, il s'agit en fait d'espérer dans la grâce. Et si vous avez bien suivi l'exposé d'hier, lorsqu'on s'est arrêté au verset 12, il s'agit donc d'espérer dans ce qui a été révélé. Et ce qui a été révélé, c'est ce que les prophètes ont d'abord en fait fait des recherches. Et ils en ont conclu qu'en fait le Messie, c'est Jésus en fait, c'est celui que Dieu a envoyé. Et cette parole des prophètes, elle a été donc comprise et retransmise par les apôtres. Donc, il s'agit d'espérer en fait dans les paroles de la Bible, dans l'Évangile qui a été révélé par les apôtres, par Jésus-Christ. Deuxième impératif, regardez toujours le lien avec la parole. Soyez saints, car je suis saint. C'est une référence au texte de l'Ancien Testament et ça renvoie en fait au Décalogue et aussi donc à la loi de l'Ancien Testament. Donc à la parole de Dieu toujours. Troisième impératif, conduisez-vous avec crainte. Et cette conduite est motivée par le don de la parole. C'est justifié par le don de la parole. Quatrième impératif, le aimez-vous, c'est motivé par, encore une fois, la parole. Vous êtes né d'une semence incorruptible. Cinquième impératif, il s'agit de désirer le lait pur de la parole. Et le sixième impératif que je n'ai pas lu, mais qui se situe donc dans la partie à partir du chapitre 2, verset 4, « Laissez-vous édifier ». Et donc le verset 4, que dit-il ? Vous approchant du Christ, en fait. « Laissez-vous édifier ». Donc chaque impératif est en rapport avec la parole, et cela me permet de tirer très rapidement cette conclusion, en tout cas cette application, c'est la centralité de la parole dans notre vie et dans nos actions. Et ça, c'est clair au niveau des GBU, au niveau de ses convictions. Et je lis trois points de sa vision. L'évangile de Jésus-Christ, vous pouvez le lire dans la vision des GBU, est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. C'est ce que la Bible affirme, c'est ce que nous croyons aussi au GBU. Deuxième point, l'Esprit Saint a le pouvoir de transformer l'homme au travers de la Bible. Et troisième point, la Bible est la parole de Dieu pour tous les hommes et nous conduit à une analyse pertinente et actuelle de l'homme et de la société. Ça, c'est la vision. Et dans ces principes de fonctionnement, ce sont les documents officiels que les GBU reconnaissent, les GBU accordent une place centrale à la Bible qui donne lieu à des approches diverses, adaptées au milieu universitaire. La DAB, discussion autour de la Bible, reste notre approche privilégiée. En rejoignant les GBU, l'idée, ce n'est pas que vous deveniez des GBUciens. En fait, vous serez des GBUciens. Mais en fait, l'idée, c'est surtout de vous transmettre, de vous communiquer une vision biblique de l'évangélisation, une vision biblique de ce que Dieu nous attend de nous et veut que nous fassions. Nous voulons, en fait, au travers de la méthode OIA, ce n'est pas une méthodologie qu'on veut vous transmettre. Bien sûr que c'est quand même une méthode. Mais moi, je tiens vraiment à le dire, et en tant qu'équipier GBU aussi, on veut vous apprendre à aimer Jésus, à aimer sa parole. Ça va changer votre vie. Maîtriser OIA, ça peut changer votre vie, mais ce n'est pas ça le plus important. Et aimer Jésus, ce n'est pas l'aimer avec ses propres fantasmes et ses propres désirs. Lorsqu'on veut vraiment aimer Dieu, aimer Jésus, on l'aime avec fidélité. Et aimer la parole, aimer avec fidélité, c'est étudier, comprendre le texte tel que l'auteur veut que nous le comprenions. Et OIA, je le crois et nous le croyons, nous donne comme des garde-fous pour en fait bien comprendre cette parole, pour mieux connaître Dieu, mieux le mettre en pratique et mieux pratiquer la foi. C'est vraiment en nous attachant à Jésus-Christ, à sa parole, que en fait, nous-mêmes nous allons grandir, que nous-mêmes nous pourrons transmettre en fait, cette parole à d'autres et que le Seigneur va bénir les GBU et les GBU continueront à exister et à grandir. Je passe avec à la dernière partie de l'exposé. Vivre l'Église ou vivre l'Église. Et j'aimerais lire avec vous le chapitre 2, les versets 4 à 10 maintenant, pour terminer. Approchez-vous de Christ, de la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Après l'esclavage en Égypte, Israël a connu l'exode vers la terre promise. Et l'Ancien Testament montre que seul un petit reste va s'attacher véritablement à Dieu. Et ce petit reste, ce sont ceux qui vont placer leur foi en Jésus-Christ, la pierre angulaire que Dieu a placée en Sion, c'est-à-dire à Jérusalem. Et avec la Nouvelle Alliance, avec le Nouveau Testament, Jésus, en fait, donc, a scellé cette nouvelle alliance par son sang, et les chrétiens constituent le nouveau temple de Dieu. Vous savez que les temples, les trois temples, ont été détruits. Il n'y a plus de temple aujourd'hui, depuis 70. Et la maison spirituelle, cette maison spirituelle, dont Christ est la tête, c'est l'Église. Et c'est pour ça qu'on peut dire « Vive l'Église !» Le temple n'est plus construit avec des pierres, mais avec des chrétiens qui sont comme des pierres vivantes. Le temple n'est plus construit avec des pierres, mais avec des chrétiens qui sont comme des pierres vivantes. Et quelle est en fait la mission de ces chrétiens, de ce nouveau temple, de l'Église? Verset 5, il s'agit d'offrir à Dieu des sacrifices. Et on pourrait donc prendre du temps pour expliquer qu'est-ce que c'est que ces sacrifices spirituels, mais je vais aller très vite. Il y a donc une construction dans ce texte. Il faut regarder le verset 9, donc verset 5 qui renvoie au verset 9. Verset 9, il s'agit de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il s'agit de proclamer donc les louanges. Et j'aimerais juste prendre un temps très rapide pour expliquer qu'est-ce que c'est que ces sacrifices spirituels, qu'est-ce que c'est que proclamer ces louanges. Certains diront, oui, proclamer les louanges, donc c'est chanter, c'est louer Dieu. C'est pas faux. Mais où est-ce qu'on le voit dans la lettre de 1 Pierre? Offrir des sacrifices spirituels, c'est faire de l'évangélisation. C'est marqué où dans la première lettre de 1 Pierre? Il faut toujours faire attention à ne pas mettre dans le texte des concepts ou des idées qui ne sont pas présents dans le texte. Mais qu'est-ce qu'il s'agit de faire, en fait, dans la lettre de 1 Pierre? Être un sacrifice spirituel, proclamer les louanges de Dieu, ça consiste en quoi? Ça consiste en tout ce que nous venons de dire, en fait. Les croyants, les chrétiens de la Nouvelle, donc les croyants de la Nouvelle Alliance, les chrétiens, deviennent donc, en fait, ces sacrifices spirituels. Et, en fait, en devenant ces sacrifices spirituels, c'est-à-dire en étant transformés de l'intérieur, et ces six impératifs que nous avons lus vont opérer ce processus de changement, ce nouvel exode. L'exode, en fait, dans son sens spirituel, c'est pas un exode géographique comme ce qu'Israël a connu. Et c'est vrai qu'Israël a connu un exode géographique, mais ce n'était qu'une préfiguration de ce que allait être la transformation, en fait, du cœur, des pensées et de l'être. Et lorsque nous sommes transformés de l'intérieur, en fait, nous pouvons rendre compte de la foi. Nous pouvons témoigner de la foi et donc, en fait, refléter, en fait, l'Évangile. Les chrétiens, et je les formule ainsi, sont un peu comme des mini-temples portatifs. Les chrétiens, en fait, deviennent des mini-églises qui, en fait, communiquent, transmettent l'Évangile aux hommes et aux femmes. Ils témoignent de l'Évangile à leurs contemporains, par leur vie transformée. Ça, c'est ce que, me semble-t-il, et ce que nous allons voir aussi donc, cette semaine, ce que Pierre est en train d'enseigner. Et donc, vous comprenez, en fait, l'importance de cette transformation intérieure qui va être rendue visible. Le texte, donc, présente le salut vraiment dans sa dimension vivante, dans sa dimension agissante dans le temps présent. On s'approche de Jésus personnellement, et c'est ce que je reste un petit peu sur ce sixième impératif. Laissez-vous édifier pour former donc une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il y a cette dimension communautaire qui est mise en avant et qui est à la fin du texte. Et pourquoi, en fait, c'est important de prendre note de cette dimension communautaire? Tout simplement parce que, me semble-t-il, le témoignage peut être plus efficace lorsqu'il est communautaire, lorsqu'il est fait ensemble. Et par exemple, c'est une réalité. C'est notamment le cas lorsqu'il s'agit d'envoyer et de soutenir des personnes dans la mission. Ou simplement, c'est lorsqu'il y a des temps de persécution, c'est important, en fait, que le témoignage soit communautaire. Je prends l'exemple du soutien de l'envoi des missionnaires, les équipiers, donc les gens que vous connaissez. Certains sont envoyés, d'autres envoient. Et les équipiers sans exception, nous sommes financièrement soutenus par d'autres personnes. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait, on ne pourrait pas être là aujourd'hui s'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui nous soutiennent financièrement, aussi bien par la prière que financièrement. Et ces personnes qui peut-être ne sont pas ici aujourd'hui, et nous leur sommes redevables, qui sont peut-être éparpillées dans le monde ou en France, elles nous soutiennent régulièrement chaque mois. C'est ce qui nous permet d'avoir une rémunération pour continuer à vivre et en continuant à travailler avec les étudiants au GBU. Et c'est vraiment important. Et c'est important pour vous aussi, parce que vous êtes des étudiants très brillants. Vous allez avoir un beau diplôme, un beau travail. Vous allez gagner beaucoup d'argent. Et vous allez pouvoir aussi l'investir dans ce centre pour que nous ayons des vrais repas. Et vous allez aussi pouvoir les investir donc pour les équipiers, pour qu'ils continuent à faire leur travail, qu'ils continuent à être des missionnaires parmi les étudiants. C'est un travail de collaboration, la mission. Mais le plus important, et j'aimerais terminer, Paul l'a résumé ainsi, l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Je voudrais lire ces deux versets avec vous, 2 Corinthiens 3, versets 2 à 3. C'est ce qui fait notre joie en tant qu'équipier, et ça j'en suis convaincu. Et j'espère que c'est ce qui fait aussi votre joie. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 2 et 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans notre cœur, connue et lue de tous les hommes. Il est clair que vous êtes une lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Lorsque un étudiant comprend l'Évangile, vient à Jésus, ou comprend en fait la parole, et en fait est transformé par cette parole, ça fait la joie de Dieu, ça fait la joie des anges, et ça fait aussi la joie des équipiers. On ne veut pas former des GBUciens pour former des GBUciens, mais on veut pouvoir accompagner et former des étudiants et des étudiantes qui vont s'attacher au Seigneur, qui vont être transformés dans leur vie, qui vont être des témoins de Jésus-Christ, là où le Seigneur va les placer, s'ils continuent leurs études, s'ils ont fini les études et qu'ils commencent à travailler, s'ils vont fonder un foyer, une famille, intégrer une église. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez vraiment des chrétiens, là où le Seigneur vous place, que vous soyez vous-même d'abord transformés, que vous ayez la vie éternelle et que vous puissiez être des transmetteurs de la parole. J'aimerais prier pour clôturer. Merci Seigneur, parce que ton œuvre est merveilleuse et elle commence ici, dans le temps présent. Et c'est toujours toi qui es à l'œuvre. Tu nous as appelés et tu vas nous équiper pour que nous puissions être ces témoins que tu envoies dans le monde. Merci Seigneur encore de nous renouveler par ton esprit, par ta parole, de nous permettre de nous attacher à Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tout ça. Merci Seigneur d'être attaché à toi et de pouvoir continuer à vivre en t'honorant, en te craignant, en aimant notre prochain et en gardant toujours en tête, dans notre conscience, dans notre pensée, qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu veux que nous fassions. Nous prions Seigneur, nous demandons au nom de Jésus. Amen.